Deuxième texte ce matin dans le livre des Actes, on est au chapitre 4 du livre des Actes. Et le livre des Actes nous propulse dans la naissance et les premiers pas de l'Église. L'Église dans le sens biblique, c'est-à-dire les personnes rachetées par Dieu au travers de Christ. C'est la foi en Christ qui fait qu'on est fait partie de l'Église dans le sens biblique. Et on voit d'ailleurs que Christ confie une mission à l'Église, celle de porter son nom, sa victoire sur le péché, aux alentours proches, comme aux extrémités de la terre, comme l'indique le verset qui est sur le mur derrière moi. C'est la mission que Dieu donne par Jésus aux disciples, aux apôtres. Pour les aider dans cette grande mission, Jésus envoie, comme il avait promis, le Saint-Esprit, qui les aide dans la propagation du message de l'Évangile. Alors, au chapitre 2, on a vu ça d'une manière étonnante, avec la capacité de parler les langues de toute la diaspora juive qui était présente à ce moment-là et qui représentait un petit peu tous les endroits qu'il y a autour du bassin méditerranéen. Et en fait, on voit que les apôtres, c'est le trait d'union entre Jésus d'un côté, ce que Jésus faisait, eh bien, Dieu permet aux apôtres aussi de le faire au travers d'eux. Jésus opérait des guérisons, des signes, des miracles qui attestaient sa divinité. Eh bien, les apôtres sont aussi l'instrument de Dieu qui permettent de faire la même chose et qui montrent que c'est le même esprit qu'il y a qui œuvre en eux. Nous avons vu au chapitre 3, donc la dernière fois, la guérison d'un handicapé de naissance suite à la rencontre avec Jean et avec Pierre. Et c'est d'autant plus intéressant, ce miracle, quelqu'un qui est depuis toujours, depuis une quarantaine d'années, handicapé, et qui se lève sans rééducation, sans physio, sans rien, gaïtolo, il saute dans le temple, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du livre des Actes, c'est un médecin. C'est pas un illuminé, quelqu'un qui connaît rien du tout à la médecine, c'est Luc qui écrit. Donc c'est un médecin, c'est d'autant plus waouh, c'est-à-dire qu'un médecin, il sait bien que c'est un vrai miracle. Alors, Pierre et Jean disent très clairement que c'est pas eux qui sont l'auteur de cette action spectaculaire, hein, mais que c'est l'œuvre de Christ, hein. Pierre en profite justement pour préciser qui est Christ et il annonce dans son discours que c'est celui qui, au travers de toute l'histoire du peuple juif, dans l'histoire des patriarches, des prophètes, c'était lui qui était annoncé comme le Messie. Et comme à chaque fois, il accuse hein, son auditoire en disant « c'est vous qui l'avez livré, c'est vous qui l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. Et vous avez fait ça, certes, par ignorance, mais repentez-vous. Convertissez-vous et un temps de rafraîchissement viendra pour vos vies. » Et la réponse à ce discours, puis si on met le discours du chapitre 2, c'est que l'Église augmente de 5 000 hommes. Ça fait un grand bâtiment, hein, Jean-François, il va falloir qu'on pousse les murs, hein. Alors 5 000 hommes, c'est la manière de compter de l'époque. Les femmes et les enfants ne sont pas comptés. D'ailleurs, c'est tellement une croissance qui était importante les archéologues ont trouvé dans les fouilles de cette époque-là qu'en fait les chrétiens se retrouvaient dans tout un quartier de Jérusalem, tellement il y avait de croyants à ce moment-là. Alors si certains croient, d'autres sont irrités et manifestent leur opposition à l'image du ministère de Jésus. Ce que Jésus a fait, a vécu, ses disciples, les apôtres, le vivent également. Et c'est ce qu'on va voir au chapitre 4. Alors, je vais m'interrompre des fois un petit peu dans la lecture pour donner quelques indications qui vont nous aider à mieux comprendre la lecture. Déjà, le premier verset, je dirai quelques mots après. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les sadducéens. Juste avant de reprendre la lecture, c'est intéressant de voir la pédagogie que Dieu utilise ici à Jérusalem pour l'annonce de l'Évangile. On voit que Dieu va le faire d'une manière progressive. Déjà, en premier au peuple juif, parce qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a personne de mieux pour constater l'accomplissement des promesses qui ont été données par les prophètes. Donc au chapitre 2, on voit que c'est l'ensemble du peuple qui est réparti autour du bassin méditerranéen. Au chapitre 3, c'est les fidèles du temple. Et puis chapitre 4, c'est les responsables religieux. Vous voyez cet effet d'entonnoir où chacun des aspects de la population du peuple juif est concerné par cette annonce de l'évangile ici à Jérusalem. Et à chaque fois, on va voir, c'est le même discours basé sur l'histoire scellée par Dieu, par l'Éternel, dans l'histoire du peuple hébreu. Vous l'avez fait mourir, c'est vous, voilà, c'est très clair, vous avez toute la responsabilité du meurtre de Christ. Dieu vous appelle à la repentance et un temps de rafraîchissement sera pour vous. Dans la suite du texte, il va être question des Sadducéens. Les Sadducéens étaient un mouvement dans les religieux qui niait la résurrection. Même s'il y en avait devant eux, des personnes qui ont été ressuscitées, ils le niaient, c'était leur idéologie. Ils ne bougent pas d'un iota et ils le niaient. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là présents. Donc je reprends au verset 2. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Cependant, ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Hein, cette confrontation rappelle un peu la confrontation quand Jésus guérit l'aveugle né de naissance et que l'aveugle, il est devant un même parterre d'officiels religieux, il dit je sais pas, moi avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Et c'est un petit peu la même chose ici. Avant, j'étais handicapé et maintenant, je marche. Hein. Continuité entre ce que Jésus a vécu et ce que les apôtres montrent avec l'aide de Dieu. Verset 15. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire à ces hommes ? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. » C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors c'est intéressant des textes comme ça, parce que c'est des preuves internes dans la Bible, de la bouche des opposants, alors à la fois de Jésus ou des apôtres, qui nous disent que le miracle a bien eu lieu. En fait, le problème... À chaque fois, ils ne contestent pas les miracles, les résurrections, mais ça les dérange parce que ça ne rentre pas dans leur système d'idées. Si ça avait été une supercherie, ils avaient l'autorité, vous avez vu qu'il y a le commandant des gardes du temple, ils avaient l'autorité de les fouetter et on passe à la suite. Donc c'est une preuve interne que ces miracles ont bien eu lieu. Verset 18. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Et là, petit rappel dans ce qu'il dit, « vu et entendu ». Les apôtres sont des témoins, ils ne sont pas des marchands ou des démarchands d'une pensée ou d'une religion. Ils disent simplement ce qu'ils ont vu et entendu. Et ce qu'ils relatent, ce n'est pas en leur propre nom ou en leur propre religion, mais ils le font pour Dieu. Verset 21. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent à cause du peuple. Ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Passage extraordinaire. Et on voit que l'opposition des sacrificateurs, des sadducéens, du commandant du temple, se cristallise sur le fait à la fois que Pierre et Jean enseignent, ce n'est pas entre guillemets des professionnels de l'enseignement religieux, qu'ils enseignent leur enseignement, mais Jésus au centre de cet enseignement, et qu'ils parlent de résurrection. Donc ça, c'est le premier point qu'on voit dans ce texte. L'autre point, on voit que s'il y en a qui sont mécontents, il y en a qui croient, et très certainement qu'il y a 2000 hommes de plus qui ont cru suite à cet événement. Alors, dans le petit procès là qui se déroule, il serait intéressant, mais ce serait un petit peu long, de s'arrêter sur chacun des noms des responsables religieux qui sont nommés ici. C'est savoureux parce que c'est autant d'attestations bibliques. On retrouve ces noms dans d'autres écrits. Et c'est effectivement des personnes réelles qui ont bien exercé ces fonctions à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question des religieux est basée sur la notion de quel pouvoir et quel nom ils ont réalisé le miracle qui s'est réalisé. C'est un peu bizarre cette question parce que c'est bien souvent le monde occulte qui réfléchit sur ces deux questions. D'où vient la force? Quelle est la formulation, l'incantation, la formule magique? C'est un petit peu ça qui est dans les questions de ceux qui trafiquent avec le monde occulte. Et la réponse de Pierre renvoie juste à une personne et une personne vivante. Celle de Christ. Sa réponse, elle est toute simple. Parlons de Jésus, point. Et il va juste rajouter... il était mort et il est ressuscité. Et il est le socle de tout. Vous avez voulu le rejeter, mais c'est devenu le fondement de tout. D'ailleurs, il n'y a pas de salut en aucun autre nom sous le ciel qui nous ait été donné et par lequel nous devions être sauvés. Et de voir Pierre, c'était un petit nerveux. Je ne sais pas s'il était petit d'ailleurs. Il était pêcheur, on le voit impulsif. C'est toujours le premier, soit à faire des choses bien, soit à faire des choses un peu moins bien d'ailleurs. Par contre, c'est pas quelqu'un qui avait fait des grandes écoles, quelqu'un d'éloquent. Et l'appoint qu'il a face, imaginez, le Sanhédrin, c'est la crème de la crème au niveau de la connaissance de tout l'Ancien Testament, etc. Lui, il se tient au milieu et tout de go, il va leur dire, eh ben, c'est au nom de Jésus, vous l'avez crucifié, il faudrait peut-être que vous tourniez maintenant vers Jésus. Et tout le parterre qui est là, il est quand même un petit peu scotché, parce que c'est des hommes sans instruction qui, entre guillemets, leur tiennent la dragée haute. Mais cette assurance, le texte nous dit, elle vient du Saint-Esprit. La démonstration qui a été de la métamorphose de cet handicapé ne vient pas d'eux, mais c'est l'œuvre de Jésus. Et c'est avec assurance, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il l'évoque ici. Et c'est quand même, quand on prend un peu de recul, c'est quand même à réfléchir pour nous-mêmes, de se dire que tout ce parterre de religieux, de personnes instruites, ils ont l'évidence de Dieu devant eux, quelqu'un de 40 ans qui connaissait, ils le connaissaient aussi, tous, et guéri d'une manière spectaculaire, ça ne les fait pas réfléchir sur ce que Dieu est en train de faire, mais ils restent figés dans leur croyance, dans leur conviction, leur idéologie, leur religion, plutôt que de se poser les questions vis-à-vis de ce que Dieu démontre. Peut-être qu'on ne mesure pas toujours le poids derrière de nos croyances, de nos manières de réfléchir, qui des fois font que on voit pas l'évidence que Dieu nous met sous les yeux. Et finalement, toutes leurs références, tout leur savoir ne pèse pas grand-chose par rapport à ce que Dieu démontre devant leurs yeux. Et peut-être qu'une honnête réflexion était urgente. Malheureusement, cette démarche, tout comme du temps de Jésus d'ailleurs, ça va être, ils vont avoir la même grille de réaction. C'est le refus de réfléchir plus loin et la contrainte, taisez-vous avec menace. Et c'est intéressant la réponse que Pierre va faire à Pierre et Jean. Face à ce qui est évident, faut-il qu'on se taise? Face à ce que Dieu nous montre, faut-il qu'on se taise? Et ça va être aussi une source d'adoration, l'événement qu'ils ont vécu, Pierre et Jean, ils vont pas rentrer. Quand ils retrouvent, entre guillemets, les autres disciples, les copains, ils disent « Oh, pétard, qu'est-ce qu'on a vécu ? Oh, c'était... Qu'est-ce qu'on leur a mis ? C'était un truc un peu fou. » Non, au lieu, ils sont dans l'adoration. Cette adoration, elle se base sur tout ce que Dieu a fait et qui se réalise d'une manière spectaculaire là maintenant. Et leur demande, par rapport à la contrainte qui leur est imposée, c'est pas qu'ils soient tranquilles, qu'ils puissent vivre tranquillement chez eux, mais uniquement qu'ils puissent annoncer sans barrière l'Évangile. Et Dieu leur répond avec un effet du Saint-Esprit renouvelé et encore à nouveau spectaculaire. Alors ce texte, finalement, nous sert à quoi ? C'est un petit peu comme Ruth, Est-ce que c'est juste pour nous raconter des histoires? Ça meuble notre dimanche matin, avant de prendre un bon repas après. En tout cas, j'espère qu'il sera bon, Je trouve que ce texte, il est précieux parce qu'on s'est peut-être déjà posé la question. Ok, moi je suis en Suisse. Mon environnement, c'est plutôt des chrétiens. Et donc, le moyen de salut, c'est Jésus. Ça, je l'avais compris. Mais est-ce que, aux confins de la terre, est-ce que, si j'étais dans une autre culture, etc., est-ce que le moyen de réconciliation entre Dieu et les hommes, il n'y aurait pas une autre voie, autre que Jésus? Jésus, c'est peut-être bien pour les judéo-chrétiens, mais est-ce que si j'étais bouddhiste, est-ce que j'étais issu de la culture musulmane, si j'étais athée, si j'avais ma propre conviction, etc., Est-ce que Dieu n'aurait pas un autre moyen de salut? Et ce texte est super important, celui qu'on vient de lire ce matin. La réponse, elle est claire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je souligne que Christ est la seule source de salut. Il est parlé pour toute la terre, il est parlé de sous le ciel dans ce verset, hein, et pour tous les hommes, parce que parmi les hommes, d'une manière générale, on pourrait dire l'humanité. La seule explication qui est donnée par rapport à cette affirmation, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Et le tribunal n'a pas contesté le fait que Jésus est mort et ressuscité. Hein, vous avez remarqué dans le texte. Hein. Si ça avait été un délire, la résurrection de Jésus, eh ben le cénacle des responsables se serait empressé de passer à la question suivante en fouettant Pierre et Jean. Mais ce que Dieu a réalisé au travers de Jésus pendant son ministère, sa mort et sa résurrection, il l'a fait comme pour tout le reste de son ministère, aux yeux de tous, hein, d'une manière publique. Et c'est pareil pour si c'est pareil pour son ministère, c'est pareil pour la parodie de son procès, pour son exécution, mais aussi pour sa résurrection qui a été constatée par des centaines de témoins. La seule explication que donne ici Pierre, hein, explication qui devrait en fait suffire et nous suffire, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Alors là, j'en appelle à vos neurones, si elles sont un peu réveillées. Je crois au miracle. Qui a fait ça dans l'histoire de l'humanité? Qui a annoncé sa mort et sa résurrection et l'a fait? Que sont devenues les grandes personnes à l'origine de l'histoire qu'on nous enseigne à l'école? Que sont devenues les personnes à l'origine d'autres croyances? Finalement, elles ont eu les mêmes limitations que vous et moi. Et elles ne nous sont d'aucune aide. Si quelqu'un qui se noie, comment peut-il sauver quelqu'un d'autre qui se noie? Seul Jésus est mort et ressuscité, l'a dit à l'avance, accompli des centaines de promesses qui le disaient sur des milliers d'années précédentes. Et la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas juste une démonstration pour dire « je suis un peu le meilleur là, hein, je suis un peu meilleur que les autres religions ». Ce n'est pas une compétition de religion. C'est la victoire sur la mort, donc sur le péché. Ce n'est pas une question de guerre de religion, de « nous on est meilleur que les autres », etc. C'est la victoire sur la mort, donc sur le péché, qui est à l'origine de tout le chaos, toutes les difficultés, tout ce qui nous agresse. Si Christ est le seul à avoir vaincu la mort, à être mort et ressuscité, alors toutes potentielles autres voies sont des mensonges, des pertes de temps, et elles perdent les personnes, surtout pour l'éternité. Elles sont donc toxiques et ne méritent aucun intérêt sur le plan de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Alors ça devrait nous pousser à la compassion et ça devrait nous pousser à l'envie de diffusion du message de Christ, hein, auprès de ceux qui ne le connaissent pas personnellement comme sauveur et seigneur pour leur vie. Et c'est en fait ce que souligne ici Pierre face à ce tribunal. Vous voulez nous faire taire? Mais c'est le cœur de tout. C'est en ça qu'il est en train de leur dire. Mais c'est ça qui est le plus important. Et cette urgence, je rappelle que Jésus avait confié aux disciples et aux apôtres le privilège et le devoir de le communiquer de Jérusalem aux extrémités de la terre, comme le dit ce qui a marqué sur le mur derrière moi. Vous voyez, j'ai même des yeux derrière, hein. C'est extraordinaire. Et à la fois, ce verset qui était certes spécifique pour les disciples, les apôtres, mais on voit au travers des épîtres que c'est pour tous les croyants, est un devoir à la fois personnel, mais aussi en tant que communauté. C'est pour ça que Pierre, ici, interroge le tribunal en leur disant « Mais c'est une urgence de pouvoir parler de la mort et de la résurrection de Christ pour tout le monde. » Et face à la grandeur de ce message, quelle est finalement la validité des propos que vous nous donnez? La validité de ce petit cénacle de, certes, de personnes super instruites, mais quelle est la validité par rapport à la grandeur de ce message? Alors, Pierre, il est en train de dire là, ben, vous me dites, vous nous interdisez, mais on va quand même continuer. Hein. Alors attention de ne pas prendre ce texte, parce que Pierre, finalement, a laissé entendre au tribunal qui était devant lui que ben, il continuerait. Attention à ne pas prendre ce texte pour se dire que le croyant est au-dessus des lois qui sont autour de lui. Bien sûr que non. L'Épître aux Romains nous rappelle que les autorités sont au service de Dieu pour notre bien. Et c'est même l'apôtre Paul qui l'écrit, alors qu'il en a été la victime, justement, de ces lois, etc. Hein? Par contre, le législateur, nous, on vit dans un cadre aussi avec des lois, l'aspect que Dieu a mis en place, et finalement, le législateur qui est autour de nous, a un rôle délégué de la part de Dieu. Hein? La question qu'on peut se poser, c'est quand l'autorité est en opposition à celui qui a établi cette délégation et en opposition à Dieu. Hein? Ce que nous montre la parole, on a l'exemple par exemple de Daniel, dans le livre de Daniel, c'est d'ultimement s'en référer à celui qui est Dieu et qui donne sens au principe de l'autorité et des lois. Alors clairement, en Suisse, on n'a pas cette contrainte, hein, et c'est un sujet de reconnaissance au niveau fédéral, cantonal, communal, de pouvoir vivre et de pouvoir exposer notre foi en Christ. Et c'est un sujet de reconnaissance, on peut aussi prier pour ce privilège et qu'on puisse aussi être reconnaissant et savoir l'exercer avec discernement. Ce texte aussi nous montre que le Saint-Esprit épaule justement dans cette mission de transmission de l'Évangile. On se dit peut-être, moi si je devais parler de Jésus, je ne sais pas trop ce que je dirais. Mais Pierre, peut-être aussi, s'était dit ça, et c'était juste un pêcheur, pas à la ligne, hein, mais au filet. Mais ce que ce texte nous montre, c'est que le Saint-Esprit l'a aidé, a été le soutien de Pierre. Hein, et l'a accompagné dans cette manière, avec sa personnalité, de pouvoir exposer l'Évangile. Ce texte fait réfléchir sur quelque chose qui rejoint ce que l'on entend beaucoup autour de nous et au travers des médias. La foi en Christ est exclusive. Il n'y a de salut en aucun autre nom, etc. La foi en Christ est exclusive. Pas d'autre moyen de salut que Christ. Lui seul a accompli ce qu'aucun d'autre n'a fait et même ne pourrait faire. Si nous sommes exclusifs quant aux moyens de réconciliation avec Dieu par Christ, ça veut dire que n'importe quelle autre proposition de réconciliation est inefficace et inutile. Nous sommes exclusifs. Pour autant, le croyant à l'image de Jésus est quelqu'un d'accueillant. L'exclusivité de la réconciliation ne veut pas dire que nous sommes des personnes qui vont trier qui doit recevoir ce message. Nous sommes accueillants à l'image de Jésus. Jésus a accueilli toutes les personnes pour leur montrer par sa vie le message de l'Évangile ou par ses propos le message de l'Évangile. Et nous aussi, nous sommes accueillants vis-à-vis de qui que ce soit à l'image de Jésus. quel que soit le sexe, l'âge, la provenance, la condition sociale, l'orientation sexuelle, la croyance, l'idéologie, le parcours de vie, etc. Qui que ce soit. Jésus l'a fait de son vivant en portant le message de l'Évangile. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Les croyants doivent aussi le faire. Que Christ est là et le démontrer et le dire à n'importe qui. Le début de l'Évangile de Jean nous dit que Jésus était plein de grâce et de vérité. Donc la vérité, là, en l'occurrence, il n'y a pas de moyen autre que Christ. Mais Jésus avait montré de la grâce dans l'accueil, à nous aussi d'en faire de même. Et je note même qu'il ne peut pas y avoir de grâce s'il n'y a pas de vérité. La vérité seule en Christ est la grâce à l'image de Jésus. Le problème de notre société sans Dieu, c'est qu'elle refuse la vérité de Dieu. La vérité, Christ seul. Donc elle va s'ouvrir à plein d'autres pseudo-vérités. Le corollaire, ben, c'est qu'il n'y a plus de grâce. Et la grâce est remplacée par de la permissivité. Je vais y arriver. Hein? Et finalement, par de l'intolérance. Permissivité avec tout ce qu'on va cautionner, hein, comme manière de faire, donc tout est bon. Et finalement, intolérance avec ceux qui sont exclusifs. À la réponse de Jésus, qui était plein de grâce et de vérité, on a de la permissivité et de l'intolérance vis-à-vis d'un message exclusif. Le fait que la foi dans le message exclusif de Christ, seul pour nous réconcilier avec Dieu, ne fait pas de nous des personnes qui exerçons une pression. Jésus n'a forcé personne à croire. Les apôtres n'ont forcé personne à croire. Ni l'un ni l'autre n'ont exercé de pression. Alors nous non plus, on n'exerce pas plus de pression. Et on l'a vu d'ailleurs dimanche dernier, le travail de conscience, le travail intérieur qui nous pousse à la proposition de Jésus, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de forcer les personnes à croire. Le travail du Saint-Esprit nous pousse à accepter ce que Christ a fait pour notre salut, ou bien le travail du Saint-Esprit, on le refuse et finalement on reste séparé de Dieu à jamais. Et c'est en ce sens-là que la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit où il n'y a pas de pardon. Parce que si je refuse l'éclairage du Saint-Esprit, je me trouve sans pardon et je reste séparé pour l'éternité de Dieu. Notre mission de croyant, à l'image de celle de Pierre, c'est juste d'être des témoins de ce que Dieu a fait de parfait et d'unique en Christ. Juste des ambassadeurs par nos vies et nos paroles. On ne convertit personne. Et d'ailleurs, on n'en a pas les moyens. C'est à chaque humain de se positionner face à Christ. Et si la personne accepte Christ, il s'opère une conversion. Il s'opère un demi-tour dans la vie de celui qui accepte Christ. Comme au ski, quand on est sur une paroi qui est super raide et qu'on ne peut pas aller plus loin, hop, on balance le ski sans se tomber, hein, et on part dans l'autre direction. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si j'accepte Christ, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à ma place, eh bien, au lieu de continuer ma voie dans le sens de mon égoïsme seul, etc., je me tourne vers Christ. Il s'opère une conversion. Mais cette conversion, ce n'est pas nous les croyants qui la faisons, c'est le choix personnel qui permet que Dieu, par Christ, fasse cette conversion. Alors à nous de vivre Christ, à nous de porter Christ avec l'aide du Saint-Esprit pour que d'autres puissent, avec l'éclairage du Saint-Esprit, se poser la bonne question et se tourner vers Dieu avec l'aide de Christ. Alors, ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est que j'apprends des choses sur Dieu le Père, j'apprends des choses sur Jésus, j'apprends des choses sur le Saint-Esprit, puis j'apprends des choses sur moi. Hein? Déjà, ce texte nous rappelle que Dieu est souverain. Vous avez vu au verset 28, il est question, il a accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé à l'avance. Waouh ! Qu'est-ce que c'est bon d'être un enfant de Dieu par Jésus. Lui, quand il décide quelque chose, il amène au bout, quel que soit ce qui arrive. Et ici, en particulier, le plan de salut. On voit aussi qu'il est attentif à la prière de tous les croyants, parce qu'il prie le Père, de les épauler dans leur rôle de témoin. J'apprends de Jésus deux choses, qu'il est l'auteur de la guérison de la relation brisée entre Dieu et les hommes, le salut, et qu'il est l'auteur des fois aussi de guérisons spectaculaires pour démontrer le fait qu'il a cette capacité de guérison. Et on le voit avec cet handicapé. Ces guérisons spectaculaires, ce n'est pas pour faire un peu du spectacle, c'est juste pour montrer un petit écho de ce qu'il fait d'une manière bien plus grandiose pour chacun d'entre nous, entre Dieu et nous, pécheurs. Il guérit cette relation brisée. Qu'est-ce que j'apprends du Saint-Esprit ? Il donne de l'assurance, même si je suis nul, même si je n'ai pas d'études bibliques. Il donne de l'assurance pour vivre et témoigner de l'Évangile. Qu'est-ce que j'apprends de moi ? Il est possible d'être réconcilié avec Dieu, par Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que Dieu ait donnée. J'apprends aussi que mes convictions, ma religion, mon idéologie sont des ennemis tenaces pour avoir une réflexion honnête quand il est question de choses spirituelles et de Dieu. J'apprends aussi que j'ai un rôle de témoin de l'Évangile. Et puis, face à une contrainte qui m'obligerait d'arrêter ce rôle de témoin, la question qui se pose, ne faut-il pas continuer à être témoin ? Et le deuxième grand verset que je pense qu'il serait intéressant de souligner dans le livre des Actes, le premier, il est là. J'ai toujours des yeux derrière la tête. Si on m'a effacé le verset, là, je suis mal. Et l'autre verset qu'il faut retenir, alors à souligner dans nos Bibles ou à taguer sur les téléphones et tablettes, c'est le verset 12. Et ce verset, vous pouvez avoir rien écouté de toute la matinée. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alors, tout le monde va arriver maintenant vers 11h, maintenant, ça va être sympa. C'est là où il y a le verset clé qui est donné. Le verset qu'il fallait retenir, c'est le verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »